le décalogue. Alors nous allons aller assez vite et vous allez donc devoir prendre d'autant plus attention. Ça c'est la première difficulté pour ce matin, c'est que vous allez être obligé de vous concentrer peut-être davantage. La deuxième difficulté, vous le remarquez sans doute sans peine, comme je le remarque moi-même, c'est que je n'ai pas beaucoup de voix, donc je ne peux pas parler bien fort. Et là aussi, il faudra que vous prêtiez l'oreille. Alors concentration et attention, voilà deux choses que je suis obligé de vous demander en commençant ce cours. Alors nous prenons d'abord la septième parole, « Tu ne commettras pas d'adultère », qui se trouve donc dans les deux textes du Décalogue, en Exode 20-14 et en Deutéronome 5-18. Comme je vous l'ai déjà fait remarquer, les 10 paroles, ou plutôt les 9 dernières paroles, sont particulièrement rattachées à la première. Il y a un lien tout particulier qui va de chacune des 9 dernières paroles à la première. Et en effet, c'est à Israël qu'est adressé le Décalogue. C'est à Israël qui est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi » et c'est à Israël qu'il est dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Je pense que pour comprendre vraiment cette parole « Tu ne commettras pas d'adultère », il faut d'abord bien voir qu'il s'agit d'un commandement adressé au peuple de Dieu. On peut même dire plus qui est adressé à l'épouse de Dieu. En hébreu, Israël est un mot féminin et Israël est l'épouse du Seigneur. Il faut dire d'ailleurs aussi bien Israël en tant qu'ancienne Église que l'Église en tant que nouvelle Israël. Parce que je vous l'ai déjà fait remarquer par rapport au dispensationalisme, c'est très important de bien voir, Dieu n'est pas bigame, Dieu ne peut pas avoir deux épouses. L'ancienne Église, Israël, et le nouvel Israël, l'Église, constitue une seule Église, un seul Israël, un seul peuple de Dieu. Et cette Église, aussi bien sous l'ancienne disposition que sous la nouvelle, cette Église est l'épouse du Seigneur. Il n'y a qu'une épouse du Seigneur, car le mariage de Dieu, si j'ose dire, est monogamique. Et donc, Dieu a comme épouse son Église. Et Dieu exhorte son Église à ne pas commettre d'adultère, c'est-à-dire à ne pas avoir des amants en dehors de Dieu. L'Église doit aimer Dieu de tout son cœur, elle ne doit pas courir après d'autres dieux que Dieu. Il y a donc un lien avec la première parole, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'auras pas d'autre mari devant ma face, tu n'auras pas d'autre amant devant ma face, c'est moi que tu aimeras. » Et le mot qui rend le mieux compte de ça en hébreu, c'est le mot resed. Resed. Resed, c'est la fidélité. Ce qui caractérise un mariage, avant même d'être un engagement d'amour, un mariage est un engagement de fidélité. Dieu s'engage à être fidèle à Israël, et il demande à Israël de lui être fidèle. Donc, souvenez-vous de ce mot « resed » en hébreu, qui désigne la fidélité. Alors, si nous passons du mariage entre Dieu et son Église au mariage entre un homme et une femme, on peut dire, je développerai ça dans mon cours de lundi prochain, qui sera sur le mariage, que le mariage entre un homme et une femme doit être une miniature vivante du mariage entre Dieu et son Église. Et vous avez deux passages de la Sainte Écriture en particulier qui soulignent cela. Dans l'Ancien Testament, c'est le livre d'Osée. Vous connaissez l'histoire d'Osée. L'histoire d'Osée typifie le rapport entre Dieu et son Église. Voilà que Dieu ramasse dans le ruisseau son Église, l'aime sans que cette Église ait mérité son amour, s'engage à lui être fidèle. Et voilà que, peu de temps après ce mariage, l'Église part. et court après des amants, se prostitue. Et voilà que Dieu attend, dans la richesse de sa miséricorde, que son Église revienne à lui. Et alors on a cette page poignante du livre d'Osée, lorsque la femme d'Osée, qui a quitté le domicile conjugal, revient, frappe à la porte, Osée lui ouvre, et au fond, cette femme qui s'est prostituée, qui est devenue adultère, pourrait se voir chassée, mais voici que Osée finalement la prend, la reprend. Et au fond, il y a l'exhortation prophétique en même temps, c'est l'exhortation d'Osée au peuple d'Israël. Et, si vous voulez, il a vécu dans sa vie une miniature du drame entre Dieu et Israël. Et alors, il dit au peuple d'Israël, eh bien voilà, si tu reviens à ton Dieu, il te pardonnera. Si tu reviens à ton Dieu, il te reprendra. Car Dieu, lui, est fidèle à son Église et il est prêt à la ramener à lui et à la faire revivre dans sa communion. Donc, vous avez ce texte important dans l'Ancien Testament du livre d'Osée, et dans le Nouveau Testament, vous avez évidemment dans le livre, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, qui dit clairement ce que déjà le livre d'Osée disait dans l'Ancien Testament, à savoir que le mari doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Et l'épouse doit être dans la soumission à son mari en toutes choses, parce que Israël doit être soumis à son époux, à son mari en toutes choses. Et donc le mariage, je le répète, est une miniature vivante de la relation d'amour conjugal qu'il y a entre Dieu et son Église. Et l'amour, au sens biblique du mot, égale fidélité. Je voudrais ici faire une toute petite parenthèse rapide. Vous m'entendez assez quand même? Je fais une petite parenthèse rapide. Bien aujourd'hui, à notre époque, on a rabaissé de toutes les manières possibles le sens du mot amour. Finalement, on est descendu de l'amour au sens d'engagement de fidélité, qui est le vrai sens. Ça, c'est le sens biblique du mot amour. On pourrait presque dire, bibliquement, amour égale fidélité, fidélité égale amour. Ça, c'est le sens profond du mot amour. Alors, on est descendu au plan des sentiments. Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? Ce n'est pas s'engager à lui être fidèle et attendre de lui ou d'elle la fidélité. C'est une affaire de sentiments. Alors si on éprouve des sentiments, on aime. Or, vous le savez comme moi, il n'y a rien de plus variable, il n'y a rien de plus changeant que le sentiment. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et on a établi l'amour au niveau des sentiments. On est donc descendu de l'amour-fidélité à l'amour-sentiment. Et même aujourd'hui, depuis quelques décennies, on est descendu des sentiments. Alors c'est variable. J'aime une femme, et puis un beau jour, ou une femme et un homme, puis un beau jour, elle n'éprouve plus de sentiments pour l'autre, mais elle éprouve un sentiment pour un autre. Alors, ben, si l'amour, c'est les sentiments, ben, j'ai le sentiment pour l'une, et puis après j'ai le sentiment pour l'autre, et puis il n'y a pas de raison pour que je n'ai pas le sentiment pour une troisième, je peux même avoir des sentiments pour plusieurs à la fois. On est complètement en dehors du sens profond du mot amour. Mais alors on a dégringolé davantage depuis quelques décennies, et on est passé au plan de la sexualité. Qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un? C'est le désirer sexuellement. Et alors, si vous voulez, c'est la dégringolade et donc massive. On passe de l'amour égale fidélité à l'amour égale sentiment et à l'amour égale désir sexuel. Et alors là, c'est encore pire que le sentiment, parce qu'alors, le désir sexuel, à la limite, on pourrait tomber dans la nymphomanie, on pourrait tomber dans n'importe quoi, on peut avoir des désirs sexuels pour n'importe qui, à n'importe quel moment. Je veux dire, c'est une dégringolade terrible. Et c'est le sens du mot amour. J'attire votre attention que le mot amour signifie ça, aujourd'hui. On est donc, si vous voulez, on est descendu d'un premier cran, et on est descendu d'un second cran. Alors, nous le verrons, je vais un peu vite à certains égards sur ce point de tu ne commettras pas d'adultère, puisque ma leçon de mon cours de lundi prochain portera sur le mariage et que j'aurai donc l'occasion de reprendre ça. Donc je vous donne plutôt une sorte de piste. L'amour donne sa vie et ne se reprend pas. L'engagement de l'amour-fidélité, c'est qu'on donne sa vie à un autre et qu'on s'engage à ne pas se reprendre quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y a donc une exigence formidable dans l'amour-fidélité. Une exigence formidable. L'amour-sentiment n'a aucune exigence de ce genre, et encore moins l'amour-désir. Tandis que l'amour-fidélité, c'est un engagement irrévocable. C'est quelque chose, je serai à toi, et tu seras à moi, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et on ne va pas établir le mariage sur le sable mouvant des sentiments. On ne va pas établir le mariage sur simplement le désir sexuel. On établit le mariage sur un engagement de fidélité. Et le véritable amour, c'est ça, c'est un engagement de fidélité. Aimer quelqu'un, au sens biblique où il est question de l'amour de Dieu pour Israël, ou du Christ pour son Église, c'est un engagement irrévocable. Le Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné pour elle. Être prêt à se donner pour jusqu'au bout. C'est ça, l'amour au sens biblique. Alors, je ne reprends pas maintenant donc tous les textes bibliques concernant le mariage et sur lesquels je reviendrai lundi, mais je voudrais quand même insister sur l'importance dans la question pratique de la vertu, si j'ose dire, de chasteté. Nous allons en parler parce que le Nouveau Testament le souligne, déjà l'Ancien Testament l'enseignait, mais je dirais le Nouveau Testament est venu pour le souligner et en montrer la profondeur. Alors là, je vous fais une petite parenthèse, mais enfin qui peut vous être utile. Vous savez que dans sa lettre à Tite, l'apôtre Paul nous enseigne, c'est au chapitre 2 de la lettre de Paul à Tite, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir du monde, et à vivre dans le siècle, à vivre dans le monde présent, à vivre sur la terre, dans la tempérance, la justice et la piété. Voilà. Ça, c'est l'enseignement donc de Paul à Tite dans le second chapitre de sa lettre. Alors, j'attire votre attention ici, c'est une parenthèse que je fais, hein, sur l'enseignement du sermon sur la montagne. Dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ a un enseignement sur trois points très précis. Et il donne cet enseignement tout à fait, au fond, dans la ligne que Tite lui-même suivra. Le Tite, au fond, suit l'enseignement du Christ sur les trois points. L'exercice chrétien de la piété. Autrement dit, si l'on veut que croisse, que se développe, que se fortifie la piété, il y a un exercice de la piété. Alors là, on pourrait mettre en tête, si vous voulez, les vertus. Là, on pourrait mettre les exercices de ces vertus. Hein? Voilà. L'exercice de la piété, c'est la prière. La piété ne peut pas se développer sans l'exercice constant de la prière. Il faut veiller, si nous voulons vivre dans ce siècle, dans ce monde, ici-bas sur la terre, dans la piété, il nous faut prier. L'exercice de la piété, c'est la prière. L'exercice de la justice, je dis l'exercice de la justice, c'est ce que Jésus appelle l'aumône. L'aumône. Attention, l'aumône ne consiste pas, j'ai vu qu'à Montréal, dans certains métros, ça existe, à jeter quelques sous. Non, l'aumône a un sens plus grand, c'est le don de son nécessaire, et dans certains cas, de son superflu, le don de son superflu, et dans certains cas, de son nécessaire à l'autre. Et c'est un exercice. La justice ne se développera en nous que si nous pratiquons l'exercice de l'aumône. Et le troisième point, la tempérance, qu'on peut appeler aussi la maîtrise de soi, comporte un exercice qui est le jeûne. Mais on peut indiquer que la tempérance est en rapport avec soi-même, la justice est en rapport avec le prochain, et la piété est en rapport avec Dieu. Donc, il y a trois vertus qui doivent être développées en nous, la piété, la justice et la maîtrise de soi. Il y a trois exercices pour développer ces trois vertus, hein, c'est le jeûne, l'aumône et la prière, et c'est parce que nous devons à la fois veiller à notre rapport avec Dieu, notre rapport avec le prochain et notre rapport avec soi-même. Bon, alors si vous prenez dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, vous avez du verset 1 du chapitre 6, lu jusqu'au verset 18, vous avez l'indication, hein, de comment on doit faire l'aumône, comment on doit prier et comment on doit jeûner. Donc, ce n'est pas mon cours, c'est pas le cours que je vous fais. J'ai fait à mes étudiants une année, parce que je change avec les étudiants, il ne faut jamais faire le même cours. Et puis d'abord, ce serait barbant pour le professeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est un cours sur le sermon sur la montagne, un cours d'éthique, prenant comme base, au lieu de prendre le décalogue, comme je l'ai fait avec vous, prenant le sermon sur la montagne. Alors, si vous voulez, je vous ai fait une petite parenthèse, simplement pour vous signaler la chose. Parce que bien souvent, si vous faites une série de prédication, mettons sur le sermon sur la montagne, eh bien il faut essayer de mettre en rapport pourquoi est-ce que Jésus a choisi ces trois points, la prière, l'aumône et le jeûne. Pourquoi il a développé ces trois points? Parce que précisément, dans le développement de notre vie chrétienne, il y a le rapport avec Dieu qui doit être développé par l'exercice de la prière, il y a le rapport avec le prochain qui doit être développé par l'exercice de la justice, en l'aumône, et il y a le rapport que l'on doit avoir soi-même qui doit être développé par le jeûne. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Là aussi, le jeûne, ça consiste pas seulement à se priver de... Ça consiste à être maître de soi-même. Non pas maître de soi-même de façon autonome, mais être maître de soi-même sous l'autorité de Dieu. Hein? Nous avons, eh bien, nous avons besoin pour cela de nous priver. C'est pour ça qu'il y a un rapport aussi avec ce que Jésus dit, avec « si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le dans toi ». Ça fait partie, ça, de la maîtrise de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Le développement dans notre rapport avec nous-mêmes de ça. Bon, alors c'était une parenthèse, et j'en reviens à mon point. Alors mon point, c'est que la chasteté, dont je vais vous dire un petit mot, au point de vue éthique, donc au point de vue vie morale, la chasteté a un rapport étroit avec la maîtrise de soi. Et je dirais, on pourrait voir comment le jeûne, qui ne concerne pas que les aliments, a un rapport aussi avec la maîtrise de soi, et aussi donc avec la chasteté. Au fond, vont ensemble, maîtrise de soi, hein, chasteté et jeûne. Le jeûne n'étant pas seulement se priver de nourriture ou de boisson, mais se priver d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui peuvent nous amener au péché. Je prends un verset de Paul qui est tout à fait dans la ligne de la chasteté, c'est en Éphésiens chapitre 5 verset 3, et vous savez que c'est ce chapitre 5 des Éphésiens qui précisément parle du mariage, que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soient pas même mentionnés parmi vous comme il convient à des saints. Il peut donc y avoir même, je dirais, une possibilité de se salir simplement en parlant de certaines choses. Quelquefois, on est bien obligé d'en parler, en particulier dans la noutésie, ce que vous appelez la cure d'âme. On est bien obligé d'en parler. Mais alors, si on est obligé d'en parler, il faut en parler avec une grande discrétion. Et il faut en parler seulement selon ce qui est utile, ce qui est nécessaire. On pourrait dire que l'origine de ce que Paul appelle l'impureté, ou de ce qu'il appelle ailleurs l'impudicité, est dans le rapport faux que le péché établit entre les êtres, rapport où ne règne plus le respect mutuel. Il faut nous souvenir d'abord que les créatures de Dieu se doivent un respect les unes aux autres, ça c'est l'amour du prochain, et que les enfants de Dieu se doivent le respect les uns les autres, ça c'est le rapport avec les frères et les sœurs. Et je pense que vous n'êtes quand même pas des enfants, et que vous avez déjà saisi dans les rapports que vous pouvez avoir avec vos frères et sœurs dans l'Église, comme dans les rapports que vous pouvez avoir avec vos prochains, la nécessité d'une sorte de pudeur, la nécessité de ne pas manquer au respect profond dû aux êtres, et en particulier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir moins de respect pour les autres, mais nous devons avoir un respect d'autant plus attentif, d'autant plus particulier pour les frères et sœurs dans l'Église. La source de la pureté dans l'Église est évidemment en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le mariage est tellement nécessaire. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, par exemple, donne une sorte de règle générale concernant le mariage? Il sait que des chrétiens sont appelés au célibat. Lui-même, Paul, voudrait que beaucoup soient comme lui, parce que le célibat permet une disponibilité plus grande. Paul, je dirais, il n'y a rien de plus, comment dire, de plus sensé et de plus clair dans ce que dit Paul. Il dit, un mari va chercher à plaire à sa femme et une femme va chercher à plaire à son mari. Et c'est normal. C'est grave d'avoir une femme et ne pas chercher à lui plaire, ou d'avoir un mari et de ne pas chercher à lui plaire. Bon. Mais, donc, on va avoir dans l'existence une préoccupation non seulement légitime, mais nécessaire, plaire à son mari, plaire à sa femme. Tandis que le célibat chrétien, pour celui qui est appelé au célibat, et il n'y en a pas beaucoup qui ont une vocation au célibat chrétien, eux vont avoir une plus grande disponibilité. On peut aller... C'est grave quand même. Quelquefois, vous avez des pasteurs, par exemple, ils ont une consécration, soi-disant telle, au Seigneur, qu'ils ne s'occupent, pour ainsi dire, pas de leurs femmes, et ils s'occupent, pour ainsi dire, pas de leurs enfants. Vous avez peut-être déjà rencontré des phénomènes pareils. Moi, j'en ai rencontré. C'est très grave. Si j'ai épousé une femme, c'est pas pour la laisser choir. Si Dieu me donne des enfants, ce n'est pas pour que je ne m'en occupe pas. Et donc, il y a du temps que je vais devoir consacrer à ma femme, du temps que je vais devoir consacrer à mes enfants. Et alors, celui qui dit, « Oh, mais non, moi je suis au service de Dieu, je suis pasteur. » Eh bien, d'accord, il n'avait qu'à pas se marier. Et c'est ça que veut dire saint Paul quand il dit que le mariage ôte forcément une certaine disponibilité, alors qu'au contraire, normalement, le célibat... Ceci dit, il y a des célibataires chrétiens qui ne sont pas pour cela plus disponibles pour Dieu. Et il y a des mariés chrétiens qui sont très disponibles pour Dieu. Mais l'enseignement de Paul est quand même celui que je vous dis. Il dit, celui qui est marié, il va chercher à plaire à sa femme et la femme à son mari, il n'aura pas la même disponibilité qu'un célibataire. Et c'est pourquoi Dieu m'a donné à moi, l'apôtre Paul, cette vocation au célibat. Et pourquoi il vit. Donc, ne déformez pas ce que je dis. Hein. N'allez pas dire, Courtial est allé encenser le célibat. Et tout. Pas du tout. Je n'encense pas le célibat. Je dis simplement qu'il faut faire bien attention à être bien à la place que nous devons avoir, soit par rapport au mariage, soit par rapport au célibat, selon ce que Dieu nous destine. S'il appelle quelqu'un au célibat, qu'il soit vraiment un célibataire chrétien, mettant sa grande disponibilité pleinement au service de Dieu. Et si quelqu'un est dans le mariage chrétien, qu'il vive honnêtement son mariage chrétien, c'est-à-dire qu'il s'occupe de sa femme, qu'il prenne aussi le soin de plaire à sa femme, qu'il ne se conduise pas, sous prétexte qu'il est serviteur de Dieu, comme s'il était célibataire, à la limite. Et je dis ça parce que vous verrez, vous rencontrerez ce problème au long de votre vie pastorale. Parce que, je le dis pour les pasteurs, mais ça c'est aussi pour tout fidèle. Vous avez le premier devoir, c'est d'être à la juste place que Dieu nous donne, soit par rapport au mariage, soit par rapport au célibat. D'ailleurs, Jésus parle d'une manière imagée de cela, en parlant de ceux qui se font eunuques pour le royaume de Dieu. Bien sûr, il ne veut pas du tout dire « se font eunuques » au sens littéral. Il veut dire « ceux qui restent dans le célibat hein, sur un appel de Dieu ». Et il faut que nous ayons un très très grand respect, surtout si nous sommes mariés, un très grand respect dans l'Église pour les célibataires chrétiens, qui quelquefois sont célibataires parce qu'ils ont une vie qu'ils veulent consacrer en totale disponibilité au Seigneur. Vous rencontrerez des êtres comme ça, des hommes plus rarement, des jeunes femmes qui deviennent ensuite ce qu'on appelle, hélas, parce que je trouve que c'est un affreux mot, des vieilles filles, qui ne se sont pas mariées, qui ne se sont pas mariés parce qu'elles ont voulu vraiment, pleinement, consacrer leur vie au service de Dieu. Alors ça, c'est la première règle, être bien à sa place, soit de marié, soit de célibataire. Deuxième règle, la pureté n'est jamais acquise une fois pour toutes comme un don définitif. Et c'est pourquoi nous trouvons dans le Nouveau Testament tant d'exhortations à la vigilance. Je vous donne deux versets que vous consulterez, Matthieu 26, 41, Matthieu 26, 41 et 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. Il faut bien faire attention. Ne nous imaginons jamais avoir acquis la pureté une fois pour toutes. Moi, j'ai vu des chrétiens qui, par exemple, au bout de 20 ou même quelquefois de 30 années de vie conjugale, sont devenus adultères. Et, à la limite, l'impureté, peut-être, je dis à la limite, un châtiment de l'orgueil. Il ne faut pas croire, quand on est debout, qu'on ne risque pas de tomber. Et ça, c'est très très important, il faut veiller tout au long de sa vie sur ce point. Et troisième règle biblique, il faut s'éloigner, et même se séparer, des choses qui portent la marque de l'impudicité. Il y a une juste séparation à faire dans le cœur, afin que les choses impures, autant qu'il est en nous, ne nous touchent pas. Alors, il y a 4 points que je vous signale, je suis obligé d'abréger mon cours, parce que je veux le terminer ce matin. Il y a 4 points sur lesquels je vous dis qu'un chrétien doit veiller. Vous méditerez ça et vous rechercherez dans la Bible ce qui a rapport avec ces 4 points. Les vêtements. Il y a une théologie chrétienne du vêtement. Le vêtement. Les lectures. Les compagnies. Et les distractions. Alors, évidemment, il faut être vêtu. Il faut lire, il faut avoir des relations d'amitié, de compagnie, et il faut avoir des distractions. Bon. Mais sur ces 4 points, il faut veiller par rapport à la chasteté, par rapport à la maîtrise de soi. Alors, vous me pardonnerez d'être un petit peu rapide, mais dites-vous une chose, c'est que sur certains points, comme je parlerai du mariage lundi, je vais donc revenir. Hein. Donc, il y a des points qui viennent à votre esprit nécessairement dans ce que j'ai dit à propos de cette parole, tu ne commettras pas d'adultère. Mais si je saute ces points maintenant, c'est volontairement, parce que je compléterai cela en bonne partie, du moins je l'espère, dans mon cours de lundi. Voilà. Mais ce sont des règles très pratiques que j'ai voulu vous donner en vous soulignant, par exemple, les quatre points sur lesquels nous avons particulièrement à veiller si nous voulons croître dans la maîtrise de nous-mêmes. Et croître en même temps dans ce que Jésus appelle le jeûne et qui, je le souligne une fois de plus, ne concerne pas seulement le rapport avec ce que l'on mange et ce que l'on boit, mais le rapport, je dirais, de notre existence tout entière. Donc ça concerne, par exemple, la vision de la sexualité que nous devons avoir, et il y a un jeûne à avoir sur ce point de la sexualité, et nous devons donc faire attention à cela. J'aborde maintenant la huitième parole, « Tu ne déroberas pas ». Dans la version actuelle, par exemple dans la Bible, selon la Bible de la Colombe, second révisé, je crois qu'on traduit très bien, qu'on a raison de traduire les trois commandements, qui sont donc le septième, le huitième, et je veux dire le sixième, le septième et le huitième, de la même façon. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, non, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'en ai conscience. Et alors donc, veillons à bien dire, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Voilà. Alors, essayons de voir, tu ne commettras pas de vol. Ou, pour résumer, peut-être j'emploierai pour aller plus vite, mais ordinairement je ne le fais pas, tu ne déroberas pas. Nous avons affaire là à un commandement qui vise tout ce qui pourrait être appelé propriété, tout ce qui pourrait être appelé richesse, et en particulier tout ce qui pourrait être appelé argent. Et vous vous souvenez que l'une des idoles qui est dénoncée par notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple dans le Sermon sur la montagne, mais dénoncée tout au long de l'Écriture, c'est l'attachement à Mammon. Mammon était le dieu de la richesse. Et Jésus dit clairement que l'on ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Ce qui revient à dire que si jamais on sert à la fois Dieu et Mammon, c'est qu'en réalité on sert Mammon et qu'on cesse déjà de servir Dieu. Et donc, quand Jésus dit « Tu ne commettras pas de vol », il veut dire beaucoup plus que « Tu ne déroberas pas ». Et c'est toute la question de nos biens, c'est toute la question de nos propriétés, de nos richesses qui est abordée avec cette huitième parole du Décalogue. Il y a un texte sur lequel j'ai longtemps buté et sur lequel peut-être certains d'entre vous butent encore. C'est dans le chapitre 16 de l'Évangile selon saint Luc, la parabole, le récit, la parabole de l'intendant infidèle. Avec cette curieuse exhortation de Jésus, c'est quand même une chose assez curieuse, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » faites-vous des amis avec les richesses injustes. On peut se demander en effet pourquoi Jésus appelle-t-il injustes les richesses. Et si les richesses sont injustes, deuxième question, comment Jésus peut-il nous exhorter à nous faire avec elles des amis? Et comment peut-il appeler ces richesses injustes des richesses dans lesquelles il faut être fidèle? Au fond, Jésus nous dit de nous servir des richesses injustes pour son service et pour le service du prochain, sans pour cela jamais servir ces richesses injustes. Vous voyez la différence entre se servir des richesses injustes, ça c'est ce à quoi Jésus nous exhorte, et servir les richesses injustes, ça c'est ce que Jésus condamne. Car si l'on sert les richesses injustes, on sert Mammon, on sert une idole. Et je dirais, il n'est pas tellement facile de répondre à cette question. Et je rapproche de ce texte que je vous indique un autre texte que vous connaissez bien. C'est le récit de la rencontre entre Jésus et cet homme riche. C'est un récit étonnant, puisqu'à la fin, Jésus va jusqu'à dire à cet homme, ce qu'il n'a pas dit, par exemple, à Lazare et à ses sœurs, Marthe et Marie, qui étaient riches, il dit à celui-là, vends tout ce que tu possèdes, vends toutes tes richesses, distribue-les aux pauvres et suis-moi. Donc, là, on se trouve devant quelque chose de curieux. Il y a un commandement qui est pour tous. Tu ne commettras pas de vol. Ou si vous voulez, on peut traduire cela d'une certaine façon. Servez-vous des richesses injustes que vous avez pour le service de Dieu et du prochain. Hein ? On se trouve donc devant un commandement qui, d'une part, engage au service de Dieu sans que Dieu réclame l'abandon de ses richesses, et au contraire, pour ce jeune homme, il a fallu qu'il quitte ses richesses. La seule interprétation possible que je vois pour comprendre la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche, c'est que ce jeune homme riche était tellement attaché à ses richesses qu'il ne pouvait en être libéré qu'en les abandonnant. On raconte, je ne sais pas si la chose est juste, mais enfin peu importe, je trouve que l'image est tout à fait valable. On raconte que dans tel pays d'Afrique, pour attraper les singes, on place des fruits au fond d'un vase. Alors le singe, qui malgré sa relative intelligence est quand même une bête, le singe glisse sa patte dans l'embouchure du vase et prend les fruits qui sont, et ensuite, comme il ne veut pas lâcher les fruits, il n'arrive pas à retirer sa patte du vase et on peut l'attraper. Et c'est comme ça que on pourrait, c'est ce qu'on dit, on pourrait attraper certains singes. Eh bien, je dirais, dans le cas du jeune homme riche, c'est un peu ça. Il tient à ses richesses. Il n'y a rien à faire, il ne les lâche pas. Alors que s'il les lâchait, il serait libre. S'il les abandonnait, il serait libre. Eh bien, le cas du jeune homme riche est exactement ce cas-là. Il ne pourra suivre Jésus, il ne pourra devenir disciple de Jésus, il ne pourra communier avec Jésus, il ne pourra croire en Dieu et avoir la vie éternelle en Jésus que s'il quitte et abandonne radicalement, totalement ses richesses, que s'il les laisse tomber pour être libre de suivre Jésus. Donc, il faut bien voir que là, nous n'avons nulle part dans la Sainte Écriture un commandement adressé aux hommes et leur disant « Laissez toutes vos richesses et suivez-moi ». Non, il n'y a pas de commandement général de Dieu disant ça. Mais Dieu adresse ce commandement précis à tel ou tel. D'autres, je le répète, ont servi Jésus sans faire cela, ou bien en le faisant de façon très échelonnée. Je vous ai déjà raconté l'histoire du disciple et biographe de Calvin, qui était en même temps un très grand théologien réformé, qui s'appelait Théodore de Bèze. Théodore de Bèze, nous lui devons le récit de la vie de Calvin, et aussi en particulier de la mort de Calvin, dont il était le disciple. Et Théodore de Bèze, au fond, est devenu le grand théologien réformé après Jean Calvin. Théodore de Bèze avait quitté la France pour fuir la persécution, et il avait réussi à amener à Genève son argent. Il avait quitté la France, il est un de ceux qui avaient pu fuir la France avec ses biens, et il s'était réfugié à Genève. Eh bien, ce même Théodore de Bèze, qui est arrivé à Genève richissime, il est mort à Genève, quelques dizaines d'années après, sans un sou. Parce que, peu à peu, il avait donné, distribué toutes ses richesses aux réfugiés français, huguenots, qui arrivaient à Genève. Là aussi, on voit l'exemple, c'est Théodore de Bèze, il n'a pas été appelé par Dieu à vendre toutes ses richesses en France et arriver pauvre à Genève. Il a été appelé par Dieu, au contraire, à garder ses richesses, à les amener avec lui à Genève. Et cependant, la preuve qu'il n'était pas du tout attaché à son argent, c'est qu'il n'a jamais finalement vraiment utilisé son argent pour lui-même, et il a peu à peu distribué toute sa fortune aux réfugiés français huguenots au fur et à mesure qu'ils arrivaient, parce que beaucoup arrivaient démunis, pauvres, sans avoir rien, il distribuait aux réfugiés français pauvres toute sa fortune. C'est la règle de la dîme, enfin c'est pas mon travail de parler aujourd'hui de la dîme. Disons qu'il y a une obligation légale du chrétien, le chrétien est tenu de donner la dîme. Et la dîme n'est pas une offrande, l'offrande c'est ce qu'on donne en plus de la dîme, ça c'est autre chose. Disons qu'il y a la dîme, il y a les offrandes. Et vous savez, il y a des paroles qui vont très loin à la fin du livre du prophète Malachie au sujet de ce qui s'abat sur l'Église, ce qui s'abat sur le peuple de Dieu lorsqu'il n'y a plus observation de la dîme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, c'est dans le chapitre 3 du prophète Malachie. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées, revenez à moi et je reviendrai à vous. En quoi devons-nous revenir? Vous me frustrez. Vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, etc. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure, etc. Donc, il y a un commandement qui est certain dans l'Écriture sainte, c'est la dîme. Le fidèle de Dieu, l'enfant de Dieu, est tenu de verser la dîme pour le service de Dieu et du prochain, et il doit mettre de côté la dîme pour pouvoir la donner. Maintenant, ça c'est ce que faisaient les Juifs comme obligation légale. Mais je dirais, nous ne sommes plus dans l'ancienne disposition, nous sommes dans la nouvelle. Ça veut dire que nous ne devons pas nous contenter d'offrir la dîme, mais nous devons apporter nos offrandes à Dieu. Et l'offrande, je le répète, quand on lit attentivement les textes de la Sainte Écriture, l'offrande, c'est ce qui vient en sus de la dîme. Autrement dit, la dîme, elle est d'obligation, et l'offrande, elle est en plus de l'obligation, j'entends l'obligation légale, c'est pas une obligation coercitive, c'est pas une obligation par la force, on est obligé moralement à la dîme. Mais, en plus de la dîme, on peut donner la France. Et alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bénédiction sur le peuple de Dieu lorsque les enfants de Dieu donnent la dîme. On a calculé que ce serait formidable ce que l'Église pourrait entreprendre dans le domaine missionnaire, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la charité envers le prochain, si les fidèles chrétiens versaient la dîme. Il y aurait un changement. Et vous savez que sur la dîme, c'est la dîme de la dîme, c'est-à-dire c'est le dixième de la dîme, le centième donc, qui doit du total, qui doit être versé pour l'entretien des serviteurs de Dieu. Donc il faut faire attention, hein. La dîme n'est pas pour les salaires des serviteurs de Dieu. La dîme, c'est ce qui va pour le service de Dieu et du prochain, et la dîme de la dîme, c'est-à-dire, si c'est le mot existait, le centime, en mettant un circonflexe sur le « i », pour le distinguer du centime au sens ordinaire, c'est le centime seulement, le dixième du dixième, le dixième de la dîme, qui doit aller vers l'entretien de ceux qui sont, par exemple, pasteurs ou qui sont employés par l'Église à plein temps, etc. Alors, je vous donne ça simplement aussi à grands traits comme une indication. Mais il y a là un problème qui est posé à l'Église. Dans combien d'églises prêche-t-on sur la dîme et l'offrande? Dans combien d'églises est-ce qu'on veille à ce qu'il y ait un enseignement catéchétique sur ce point? Là aussi, c'est parce qu'il y a un antinomisme général, et à cause de l'antinomisme... Alors on entend souvent une réflexion, alors là, je dirais qu'il faut la balayer d'un revers de main, on dit souvent « Oh, mais la dîme, c'était pour les Juifs ». Alors la réponse, en tout cas, doit être rapide sur ce point. On peut dire, si dans l'ancienne disposition, il y avait la dîme, alors dans la nouvelle disposition, maintenant que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, c'est pas la dîme seulement qui doit être donnée par les enfants de Dieu. Ça, c'est la réponse très simple. Mais je dirais, on a toujours une obligation morale par rapport à la dîme, et je crois, je me permets de vous le dire, parce que je l'ai fait moi-même dans ma prédication et dans ma catéchèse, nous sommes tenus d'avoir un clair enseignement sur ce point. Mais il ne faut pas croire que ces questions soient facilement réglées. Bon, d'accord, il y a la dîme, d'accord, en plus de la dîme, je dois offrir des offrandes à l'Éternel. Et pas des offrandes, selon les Écritures saintes, qui ne me coûtent rien, des offrandes qui me coûtent. Bon, alors, vous avez aussi l'exemple de Jésus, lorsqu'il a vu mettre une piécette par une veuve à la porte du temple, et lorsque Jésus a dit « c'est celle-là qui a le plus donné ». Parce que tous les autres ont donné seulement de leur superflu, tandis qu'elle, elle a donné de son nécessaire, de tout ce qu'elle avait pour vivre. Eh bien, là, il y a un enseignement qui est clair. Et je dirais, il faut bien voir que dans certaines églises, je dis dans certaines églises, et moi j'ai vécu dans une église, à un moment donné, dans une église qui était comme ça, dans une église où il y avait pas mal de gens riches, eh bien, il est sûr, si vous voulez, que quand des gens riches s'aperçoivent qu'ils doivent se faire des amis avec leur richesse injuste, parce que, selon l'Écriture, d'une certaine façon, toute richesse est injuste, eh bien, il y a quelque chose qui est créé dans l'Église. Seulement, c'est le contraire qui se passe souvent, ce sont les gens les plus modestes et les plus pauvres qui donnent le plus, tandis que ce sont les gens les plus riches, en général, qui donnent le moins. J'entends qu'ils donnent le moins proportionnellement. Et je me rappelle toujours, je racontais, je crois, cette histoire à Gilles, mais l'histoire d'un de mes voisins, le pasteur Dallière, qui était voisin de ma paroisse dans l'Ardèche. Un jour, il avait reçu d'une dame extrêmement riche un chèque, une somme importante, mais qui était une sorte ridicule par rapport à la fortune de cette femme. Et mon collègue, là, mon voisin, le pasteur Dallière, avait eu le courage, devant cette dame, de déchirer son chèque en lui disant « Madame, on ne se moque pas de Dieu ». Eh bien, je dirais, il faut savoir, et je racontais à Gilles, qu'ensuite, sachant ce qui était arrivé, parce que sa mère disait « Mais j'ai jamais vu un pasteur aussi mal élevé, etc. Voilà ce qu'il m'a fait. » Et son fils disait in petto, c'est moi qui l'ai entendu le dire, « Il avait bien raison, le pasteur ». Voilà, donc vous voyez, ça prouve que ça avait dû porter. Alors, nous, nos richesses, pourquoi nos richesses sont injustes? C'est parce que le seul possesseur juste de toute richesse, c'est Dieu. L'argent et l'or sont à moi, dit le Seigneur. La terre est à moi et tout ce qu'elle renferme. Tout est à Dieu. Nos propriétés et nos biens, et notre argent, et ce que nous pouvons avoir, comme tout est à Dieu, et que nous n'en sommes que les gérants, d'une certaine façon, ce sont des biens, des richesses, des propriétés injustes. Mais Jésus dit, il ne dit pas, débarrassez-vous de vos richesses injustes. À moins, évidemment, que ce soit des richesses malhonnêtes, malhonnêtement acquises. Mais Jésus dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Toutes nos richesses sont toujours injustes. C'est-à-dire que ce sont des richesses que nous ne méritons pas. Dieu a ce qu'il a en toute propriété, et nous, nous avons ce que nous avons, toujours avec une certaine injustice. Donc, il faut que nous nous fassions des amis avec des richesses injustes. Alors là, je fais une très courte parenthèse, simplement vous signaler que bibliquement, si on étudie tout l'ensemble des textes bibliques, on s'aperçoit que n'est propriété légitime, donc c'est toujours injuste, mais c'est quand même légitime quand c'est acquis par le travail, à condition que ce soit un travail honnête, bien sûr, par le travail, ou par héritage, car la Bible reconnaît la légitime propriété par héritage, ou par don. Donc ce qui nous vient par le travail, par héritage ou par don, Jésus le considère comme légitime. Donc nous ne dérobons pas lorsque nous ne commettons pas de vol, lorsque nous avons une propriété légitime. Bon, ça c'était une petite parenthèse, je reviens à mon propos. Donc on a une première question, la question pourquoi Jésus appelle-t-il nos richesses injustes? Et pourquoi devons-nous cependant nous faire des amis avec ces richesses injustes? Et comment même, ça va encore plus loin, être fidèles avec des richesses injustes? Parce que le texte de Luc 16 nous dit ces trois choses à la fois. Vos richesses sont injustes, 1. 2. Faites-vous des amis avec ces richesses injustes. 3. Soyez fidèles avec ces richesses injustes. Alors ça semble un peu paradoxal, mais enfin c'est intéressant. Deuxième point. On peut se poser un certain nombre de questions. Comment avoir un discernement sage, c'est-à-dire selon la sagesse de Dieu, dans la vie professionnelle? Et là, vous avez des membres d'église qui posent des questions, ou auxquelles il nous faut poser des questions s'ils ne nous la posent pas. À partir de quel moment, par exemple, les bénéfices d'une entreprise ou d'un commerce commencent-ils à devenir de l'argent dérobé aux ouvriers, aux employés, ou tout simplement aux clients? Autrement dit, au fond, quelle va être la limite entre le bénéfice légitime et le vol? Alors, il y a des entreprises qui volent leurs employés, leurs ouvriers. Il y a des entreprises ou des commerces qui volent leurs clients, mais une entreprise ou un commerce ne peut exister que s'il y a bénéfice. Alors le point est là. Où se situe la ligne de démarcation entre le bénéfice juste, même s'il est en même temps injuste, il est quand même juste, je veux dire, disons légitime, le bénéfice légitime plutôt, où est la limite entre le bénéfice légitime et le vol? Et ce n'est pas une question si facile à répondre. Il vous suffit de réfléchir un petit peu pour voir que c'est pas facile. Mais c'est déjà énorme si un commerçant ou un chef d'entreprise chrétien a ce souci. Autrement dit, s'il n'envisage pas qu'il a le droit de faire n'importe quel bénéfice et que tout bénéfice est bon. Donc, c'est une chose que nous pouvons poser comme question dans la prédication, dans la catéchèse et je dirais dans la noutésie. La noutésie, c'est ce que vous appelez la cure d'âme. Je crois que ça commence à rentrer, vous le savez maintenant. Bon, eh bien, dans la prédication, dans la catéchèse et dans la noutésie, il faut en parler de ces choses. Il faut en parler. Et c'est pas commode d'en parler. C'est pas commode. Heureusement, quelquefois, on trouve des chefs d'entreprise, chrétiens, croyants, enfants de Dieu, qui acceptent d'être interpellés sur ce point. C'est sûr, comprenez, ça peut être très gênant que l'Église accepte de recevoir de l'argent d'un chef d'entreprise qui, dans le même temps, donne à ses employés ou ouvriers des salaires injustes, des salaires réduits, ou encore parce que il fait d'affreux bénéfices sur la clientèle. Alors il y a une question d'ordre éthique, d'ordre moral qui est posée là. Et ce commandement soulève aussi toutes sortes de questions relatives à la propriété. Vous connaissez certainement cet auteur français du nom de Proudhon, qui a publié une brochure, un livre, un petit livre, intitulé « La propriété, c'est le vol ». La propriété, c'est le vol. Proudhon, 19e siècle. Alors, il faut bien sonder, à l'aide de l'écriture, les questions relatives à la propriété. Bien sûr, puisque là, Dieu nous dit « Tu ne commettras pas de vol », et que le vol, c'est prendre ce qui appartient à un autre, ça pose d'une certaine façon le droit biblique ou le droit divin à la propriété. Il faut bien qu'on ait le droit d'avoir quelque chose, c'est-à-dire d'être propriétaire de quelque chose, puisque Dieu condamne le vol, qui est précisément dérober ce que quelqu'un d'autre a. Donc il n'y a pas de doute que la parole de Dieu légitime, valide le droit de propriété. Mais est-ce que ça veut dire que toute propriété est légitime? Et surtout, est-ce que cela veut dire que être propriétaire d'une chose, c'est avoir le droit d'en faire ce qu'on veut? Vous vous souvenez, parce qu'on l'a raconté et que ça s'est produit, ça s'est même produit publiquement à la télévision française avec un chanteur qui s'appelle Gainsbourg. On a vu des gens allumer leurs cigarettes avec un billet de banque. Et à une émission de la télévision française, Gainsbourg a allumé une cigarette avec un billet de 500 francs. 500 francs, ça fait quoi? 70 piastres, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près, c'est 70 piastres. Un billet de 70 piastres. Et il a allumé sa cigarette. Alors je dis, il y a là quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit surtout quand il y a tant de pauvres, tant d'affamés dans le monde, on n'a pas le droit de se moquer du monde, et je dirais de se moquer de Dieu, en se servant d'un billet pour allumer sa cigarette. Être propriétaire, ce n'est pas avoir le droit de faire ce que l'on veut de sa propriété. Un petit peu, si vous voulez, comme ces propriétaires d'esclaves autrefois, qui pensaient avoir le droit de vie et de mort sur leurs esclaves, avoir le droit de les traiter comme des bêtes, avoir le droit de les traiter comme des sous-hommes. Donc, il y a là un ensemble de questions concernant la propriété. Il n'y a en tout cas pas ce qu'on pourrait appeler un droit sacré de la propriété. Comme si la propriété était un absolu. Vous savez que 1 Corinthiens 7, 30 est une exhortation que ceux qui achètent soient comme ceux qui ne possèdent pas. 1 Corinthiens 7, 30. Et Hébreux 10, 34 dit des chrétiens qu'ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant qu'ils avaient des biens meilleurs et qui durent toujours. Et vous avez aussi Éphésiens au chapitre 4 et au verset 28, Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est intéressant, d'ailleurs, de voir ça. On a le droit de gagner plus que ce dont on a besoin pour vivre, si c'est afin de pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Autrement dit, notre propriété, quelle qu'elle soit, n'est jamais qu'une gérance. Le seul propriétaire véritable étant Dieu. Si nous sommes propriétaires de quelque chose, et nous sommes propriétaires, Dieu veut bien que nous soyons propriétaires de quelque chose. D'ailleurs, on est toujours propriétaire de quelque chose. On est propriétaire au moins des vêtements qu'on porte sur soi. Eh bien, Dieu veut que cette propriété nous ne la gardions pas jalousement, avec un esprit avare. Mais il veut que nous fassions servir ce que nous avons le privilège d'avoir à sa gloire et au bien de notre prochain. Alors, psaume 24:1, c'est là que j'ai tiré tout à l'heure la phrase « Au Seigneur la terre et tout ce qu'il a rempli hein. ». Si l'homme possède quelque chose, il ne l'a jamais qu'en gérance. Et c'est l'amour de Dieu et du prochain qui doit assumer cette gérance. Vous avez un épisode très intéressant dans l'Écriture sainte qui nous est raconté dans le premier livre des Rois, au chapitre 21. Vous en souvenez, c'est l'épisode de la vigne de Naboth. Je pense que vous vous souvenez tous de cet épisode. Naboth était un petit paysan, il avait une petite terre, et Jézabel, la femme du roi Akab, pousse le roi Akab à confisquer cette terre appartenant à Naboth. Alors nous voyons bien, par l'épisode de la vigne de Naboth, que, alors c'est dans 1 Roi, chapitre 21, 1 Roi 21. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla ainsi à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si ça te convient, je te paierai la valeur en argent. » Donc au départ, la proposition d'Akab est tout à fait honnête. On a parfaitement le droit de dire à quelqu'un, « Voilà, est-ce que tu veux me céder ta vigne? Je t'en donnerai à la place une meilleure, ou bien je te paierai, quel est ton prix ?» Bon, on a le droit de proposer à quelqu'un cela. Mais Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Il était de mauvais point. Sa femme, Jézabel, vint auprès de lui et lui dit, « Mais pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Il répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel, je lui ai dit, « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur, et moi je vais te donner la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ses lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivit des lettres en ces termes, « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Autrement dit, organiser un bon petit crime pour qu'on soit débarrassé de Naboth, et comme ça. Alors, le récit, ce qui est intéressant dans ce récit, vous lirez la suite dans vos bibles, ce qui est intéressant, c'est de voir que le droit de propriété est bien reconnu par la parole de Dieu. Et on a le droit, un pauvre diable comme Naboth a parfaitement le droit de refuser de vendre ce qu'il a, même à un homme très riche et même à un roi. Il a le droit. Donc, voyez, la Bible légitime bien le droit de propriété, valide bien le droit de propriété. Hein? Mais si on est roi, même si on est roi, même l'État doit respecter le droit de propriété. Remarquez, l'État moderne ne le fait pas. Hein? L'État moderne, il fait comme il veut, quand ça lui plaît, il se débrouille bien pour prendre les vignes et les champs et les terres et les maisons de n'importe qui. On se trouve devant un problème, là, bien souvent. Et alors, Naboth, lui, vous connaissez sa fin, il va être lapidé, finalement, à la suite de cette espèce de faux procès organisé par Jézabel. Et c'est Élie, le Tishbite, Élie, parce que c'est un récit, ça qui fait partie du cycle d'Élie dans le livre des Rois, qui va avoir le courage d'aller vers Akab, exactement comme Nathan eut le courage d'aller vers David. Donc, bibliquement, à la fois, il y a légitimité du droit de propriété, mais limite du droit de propriété, en ce sens que le droit de propriété n'est pas un absolu, n'est pas un droit sacré. Je vous ai dit déjà, je crois, dans un cours, qu'au début du XIXe siècle, en Angleterre, on pouvait être condamné à mort pour avoir dérobé du linge qui séchait dans un pré. Là, on considérait la propriété même pas la propriété du sol, mais la propriété d'un linge étendu sur le sol, comme quelque chose de sacré qui méritait la mort si on y portait atteinte. Non, la propriété est légitime, mais la propriété est injuste, parce que la propriété n'est jamais qu'une gérance de la propriété de Dieu, car Dieu seul est le vrai propriétaire de tout, hein, et on doit donc savoir que la propriété est limitée. Dans certaines sociétés, du passé ou du présent, je pense à certains peuples dits primitifs, la propriété privée n'existe pas parce que dans ce type de société, la personnalité humaine, l'individu, est presque entièrement absorbée par la communauté ou plutôt par un groupe social indifférencié. En fait, il n'y a aucune liberté de l'individu dans telle société. Et c'est là le point par lequel je vais conclure et m'arrêter, tout en le développant un petit peu, puisqu'il me reste encore 4 minutes. C'est le lien qu'il y a entre liberté et responsabilité d'une part, et un minimum de propriété d'autre part. Dans le monde moderne, on avait déjà reconnu dans certaines sociétés antiques, est apparu ce qu'on peut appeler le prolétaire. Qu'est-ce que c'est que le prolétaire? Le prolétaire, c'est quelqu'un qui n'a la propriété de rien, qui n'est assuré de rien. Même les serfs, au Moyen-Âge, au temps de la féodalité, avaient la propriété de leur travail. Ils n'étaient pas propriétaires du sol, c'était le seigneur qui était propriétaire du sol, mais ils ne pouvaient pas être chassés. Un serf était protégé. Dans la société féodale, un serf était protégé parce que le seigneur lui assurait travail et subsistance. Donc même, avec toutes les critiques qu'on peut faire sur le système féodal, c'est un système où il n'y avait pas de prolétaire. Le serf n'est pas un prolétaire. Tandis que beaucoup d'ouvriers modernes sont des prolétaires. Parce qu'ils n'ont pas la propriété de quelque chose, et ils n'ont même pas la propriété du travail. Et lorsqu'ils sont en chômage, ben ma foi, ils n'ont plus rien que l'allocation qu'on peut leur fournir, et dans un pays comme la France, par exemple, cette allocation, on vous la fournit pendant une certaine période de temps, ça dépend des circonstances, ça peut être pendant 1 an, 2 ans, au plus 3 ans, et après, vous n'avez plus droit à l'allocation au chômage. Au Canada, je ne sais pas comment ça se passe, mais peu importe, j'attire votre attention sur le fait qu'il ne peut y avoir de liberté et de responsabilité que si l'on a un minimum de propriété. Au temps de la féodalité, le serf avait au minimum la propriété de son travail. Le seigneur lui assurait travail et subsistance. Et on était attaché à la glèbe, c'est-à-dire au sol, on était attaché au seigneur. D'une certaine façon, on appartenait même au seigneur. Mais au moins, en échange, on avait la propriété de son travail, et on était assuré donc de la subsistance. Donc, il faut bien voir que dans certains pays industrialisés aujourd'hui, on tend à laisser des hommes sans liberté. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune propriété. Et je crois que dans une société chrétienne, normalement, on doit être dans une société où l'on cherche à faire accéder peu à peu tout le monde à la propriété. Au fond, il faudrait que une société serait d'autant plus une société d'hommes libres que tout habitant du pays aurait sa propriété, serait assuré d'un minimum de propriété. Parce que à partir de ce moment-là, je dirais, on se trouve avec une certaine liberté, d'une part, et en même temps, une responsabilité, puisqu'on devient responsable, forcément, de ce qu'on a. On est comptable devant Dieu, mais aussi on est comptable devant la société de ce que l'on possède. Autrement dit, la gérance n'est pas individualiste parce qu'elle se rapporte aux diverses relations conjugales, familiales, civiques, professionnelles que Dieu a établies. Nécessité donc non pas d'abolir, mais de reformer la propriété privée et de chercher à la réunir au ministère de la miséricorde, au ministère de l'amour du prochain. J'ai terminé, je vais m'arrêter. Je vous indique simplement une courte interprétation au chapitre 19 de Luc, jusqu'au chapitre 19 de Luc, de la rencontre entre Jésus et Zachée. De la rencontre entre Jésus et Zachée. Alors là, ça touche à une question de traduction. Mais je crois important, si vous prêchez sur ce texte, que vous ne l'interprétiez pas de travers. Donc, je résume, ça se trouve dans à partir du verset 1 du chapitre 19 de Luc, et ça va jusqu'au verset 10. Ça se termine par la fameuse phrase, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bon, mais c'est l'interprétation du verset 8. « Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. » Alors, la fausse interprétation, c'est de dire, Jésus a salué Zachée, parce que Zachée, auparavant, donnait aux pauvres la moitié de ses biens, et s'il avait fait tort de quelque chose à quelqu'un, lui rend le quadruple. Or, le sens est inverse. C'est parce que Jésus est venu dans sa maison, a logé chez lui et l'a sauvé, que Zachée conclut par le mouvement nécessaire de la restitution. Bon, eh bien, maintenant, aujourd'hui, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, c'est-à-dire, je le fais maintenant. Parce que Zachée vient de se repentir, il vient de recevoir le salut avec le pardon de Dieu, et ce pardon qu'il vient de recevoir le pousse à la restitution. Donc faisons bien attention, c'est pas parce qu'il faisait ça auparavant, mais parce que maintenant qu'il est sauvé, Zachée va... En réponse, par reconnaissance, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. D'ailleurs, déjà, dans la version second révisée, les choses se voient beaucoup plus clairement que dans certaines autres versions. Mais enfin, ça peu importe, l'important c'est de bien saisir la décision de restitution. Quand vous recevez quelqu'un, quand on reçoit le pardon, ça ne veut pas dire qu'on y quitte pour les vols qu'on a commis auparavant. Vous avez un voleur qui se repent, qui se convertit, qui vient à Jésus-Christ. Eh bien, ce voleur doit être dans la joie du pardon qu'il a reçu. Alléluia, très bien. Mais il est tenu par la loi de Dieu, par la Torah, par la parole de Dieu, la Bible. Il est tenu de restituer ce qu'il a volé. Il va falloir maintenant... qui rendent ce qu'il a volé, parce que sans ça, sa repentance serait une fausse repentance. Il se repentirait d'avoir été un voleur, et il ne ferait rien pour rendre aux victimes de ses vols ce qui leur appartient. Voilà, alors il est un peu tard, mais quand même, je me donne et je vous donne un quart d'heure, donc ce sera à...